Il est midi sur Radio Orient, bonjour à tous, le journal Loïc Barrière. L'ouverture hier du Mondial au Qatar. Après la cérémonie d'ouverture, l'Équateur a battu les Qataris 2-0 à l'occasion du premier match de la Coupe du Monde de football. La fin du sommet de la francophonie à Djerba. Notre envoyé spécial François-Xavier de Calonne a rencontré Ali Grigich, spécialisé dans le tourisme alternatif, et Lamia Bakouche, qui s'occupe de jeunes en situation de fragilité sociale à Medenine. La Turquie, visée par des tirs de roquettes en provenance du nord de la Syrie, bilan 2 morts et 6 blessés. Ce week-end, une mosquée franco-turque de Flers en Normandie a été la cible de tags anti-musulmans et néo-nazis. La durée d'indemnisation des nouveaux chômeurs baissera de 25% le 1er février. Enfin, l'invité de la bibliothèque de Radio-Orient ce week-end était l'égyptologue Florence Quentin, extrait de cette émission. Début hier de la Coupe du Monde de football au Qatar, premier mondial organisé dans un pays arabe. Après la cérémonie d'ouverture, le premier match a opposé l'équipe qatari à l'Équateur. Match remporté par l'Équateur 2-0. Outre le Qatar, 3 autres équipes arabes participent à ce mondial. Le Maroc, la Tunisie et l'Arabie Saoudite. Et puis en marge de ce mondial, Recep Tayyip Erdogan et Abdel Fattah el-Sisi ont échangé leur première poignée de main. C'était lors de la cérémonie d'ouverture. Les deux pays sont en froid depuis l'arrivée au pouvoir du président Sisi. La fin hier du sommet de la francophonie à Djerba en Tunisie. Les acteurs du tourisme espèrent que cet événement international aura un impact positif pour la saison touristique, à l'image d'Ali Grigich, spécialisé dans le tourisme alternatif à Djerba.
Je suis un acteur dans le tourisme alternatif à Djerba. Donc, je fais une excursion en Segway. C'est un tour culturel artistique à Ar-Riyad, c'est où ils ont créé l'événement Djerbaout. J'ai commencé ça en 2016. Donc, lorsqu'on parle d'un circuit culturel artistique, je parle de la ville, je parle des artistes qu'ils ont créés pour chaque œuvre.
Vous l'avez démarré en 2016, il y a eu un coup d'arrêt avec la crise sanitaire liée à la Covid-19, et là, vous sentez la reprise aujourd'hui?
Oui, heureusement, cette saison, lorsqu'on parle de 2022, donc c'était bien beaucoup mieux que les années 2020 et 2021. Nous sommes contents pour ça et espérons qu'on aura une saison très intéressante pour la saison prochaine. Donc, on attend du sommet qu'elle nous fait une publicité. Ils nous font un relancement pour le tourisme en Tunisie.
Vous soulignez que la tenue de ce sommet de la francophonie à Djerba, c'est particulièrement important pour l'image de la Tunisie et donc pour le tourisme tunisien, sachant que le tourisme représente une large partie de l'économie tunisienne aujourd'hui.
Ça, c'est sûr. Donc, c'est un secteur très important dans notre pays. C'est depuis longtemps, réellement. Donc, une population active très importante travaille dans ce secteur. C'est pas que à Djerba, mais c'est à Djerba, Sousse, Monastir, Hammamet, donc Mahdia. Aussi, on a une autre destination, c'est Barqa, c'est au nord de Tunisie. Donc, en attendant qu'on aura un relancement très important avec cette sommet.
Pour vous, la francophonie, qu'est-ce que cela représente?
Pour nous, la francophonie, c'est notre deuxième langue en Tunisie, comme vous saviez. Donc, nous avons bien étudié cette langue dans toutes les parties, quelle que soit primaire, secondaire, universitaire. Donc, c'est une dialecte qui est entrée dans notre langage, donc tunisienne. On utilise beaucoup la langue française. Son impact, c'est question lorsque on sent que nous sommes unis déjà, quel que soit. Lorsqu'on visite une pays francophone, c'est beaucoup plus facile pour nous qu'on visite une pays anglophone ou quel que soit d'une autre langue. C'est lorsqu'on parle de la tolérance, sérénité et paix aussi, il y a des gens qui habitent ici, des Français, des Canadiens, et tous les gens, ils utilisent la langue française. Donc c'est une des plus importantes langues utilisées dans notre pays.
Vous travaillez à Djerba, c'est un lieu en Tunisie connu pour sa diversité son ouverture, et ça aussi c'est un élément important.
Oui, bien sûr. Lorsqu'on parle de Djerba de base, c'est un des exemples de tolérance, paix et sérénité, parce qu'ici à Djerba, on vit tous ensemble, les musulmans, les chrétiens et les juifs, ils vivent ensemble, donc on vit ensemble, on fait les fêtes ensemble, les nourritures, les fêtes, les Aïd, donc nous avons grandi et habitué à ça. C'est ça qui est très important pour notre pays de base. Et en plus, Djerba spécifiquement.
Et c'est justement le sens de la francophonie, la diversité des cultures qui s'expriment à travers la même langue.
Exactement, oui. Lorsqu'on parle de la diversité des cultures, nous sommes tous des Tunisiens. Pour nous, c'est une diversité, oui.
Ali Grigich, spécialisé dans le tourisme alternatif à Djerba, il répondait à notre envoyé spécial en Tunisie, François-Xavier de Calonne. Un village de la francophonie s'est ouvert à l'occasion du sommet de Djerba qui s'est achevé hier. De nombreuses activités culturelles y sont proposées. L'inclusion est également mise en lumière. François-Xavier de Calonne a rencontré Lamia Bakouche, directrice du Centre de défense et d'intégration sociale à Medenine, dans le sud d'est de la Tunisie.
Ce centre est créé en 2011 à Medenine. Il assure la prévoyance et la réinsertion et la réintégration des enfants et des jeunes des défaillances scolaires qui ont des difficultés d'adaptation sociale et psychologique, aussi bien au milieu scolaire qu'au milieu familial, à travers une équipe technique polyvalente, multidisciplinaire, psychologues, travailleurs sociaux, des éducateurs spécialisés, par la mise en place des ateliers. On travaille sur la motricité, la motivation et l'initiation à apprendre un métier, à apprendre des compétences de vie.
Et là, vous avez un stand au sommet de la francophonie, au village de la francophonie de Djerba.
On a un stand pour présenter des articles produits par nos enfants et nos jeunes de centre. Ce sont des enfants initiés à apprendre à bricoler. Si jamais ils auront l'occasion d'être bien entourés et bien encadrés, ils peuvent être des artistes.
Et justement, comment ces personnes sont encadrées ?
Ils sont encadrés par une équipe technique multidisciplinaire, des psychologues, des travailleurs sociaux, des éducateurs spécialisés, des formateurs. On a au sein du centre une formatrice en stylisme modélisme et un formateur en art plastique.
Et cela fait partie de la politique d'inclusion mise en place par le gouvernement tunisien.
Bien sûr. Ça fait partie de la politique de l'État tunisien relative aux défenses sociales et l'inclusion des personnes et des catégories à risque.
Pourquoi c'est important pour vous d'être au sommet de la francophonie de Djerba ?
Pour valoriser nos activités, nos talents, les talents des enfants, c'est une occasion à ne pas rater. Ce sont des enfants qui appartiennent à des populations à risque. Le jour où on arrive à présenter ces articles, pour moi c'est un défi. C'est une occasion pour valoriser, de les encourager aussi.
Et justement, lorsque vous discutez avec ces personnes qui réalisent ces activités, qu'est-ce que ces personnes vous disent ?
Ils se sont changés. Les petits enfants ou les jeunes qui suivent les activités éducatives du centre, ils se sont changés. Même leur famille, lors des réunions d'évaluation avec leur famille, il y a un changement de comportement au niveau de communication avec les autres, au niveau des compétences de vie. Il y a un changement.
On le comprend, hein, parce que vous leur faites confiance à ces personnes-là.
Bien sûr. La confiance en soi-même, c'est très important pour évoluer.
Lamia Bakouche, directrice du Centre de défense et d'intégration sociale à Medenine. La Turquie, visée par des tirs de roquettes depuis le territoire syrien, des projectiles ont atteint la ville turque de Karkamis à la frontière, bilan 2 morts et 6 blessés. Ce week-end, l'armée turque a mené des bombardements aériens dans plusieurs régions sous contrôle kurde dans le nord de la Syrie. Selon les forces démocratiques syriennes, la Turquie a visé les provinces d'Alep et de Hasaké, notamment la ville de Kobané, près de la frontière turque. En France, des injures à caractère anti-musulman et néo-nazi ont été taguées sur les murs de la mosquée franco-turque de Flers, en Normandie. « Islam hors d'Europe » était-il écrit sur le mur du lieu de culte. Des injures dénoncées par Hakim Miftar, président du Conseil du culte musulman de l'Orne et président de l'Union des mosquées de France pour la Normandie. Condamnation exprimée par le ministre de l'Intérieur, Gérald de Darmanin, ou encore le numéro 1 du PCF, Fabien Roussel. Les responsables de l'UMF, de la Grande Mosquée de Paris et de la Fondation de l'Islam de France ont également dénoncé ces insultes visant les musulmans. C'est la traduction directe de la loi votée la semaine dernière sur le chômage. La durée d'indemnisation sera en baisse de 25% au 1er février pour les nouveaux chômeurs. Un chômeur qui aurait eu droit à 12 mois d'indemnisation dans le système actuel n'aura plus droit qu'à 9 mois. Une annonce du gouvernement dénoncée par les syndicats comme Force ouvrière ou la CGT. Enfin, l'invité de la bibliothèque de Radio-Orient ce week-end était l'égyptologue Florence Quentin pour un essai publié aux éditions Perrin, « L'Égypte ancienne, vérités et légendes », extrait de cette émission.
En dépit de l'avancée de nos connaissances sur l'Égypte ancienne et puis de nos démentis scientifiques, parce qu'on a de plus en plus de théories farfelues ou complotistes, eh bien les imaginaires ne faiblissent pas. Ils prendront avec autant de force que les savoirs, et c'est une fascination qui est ancienne, qui remonte à l'Antiquité, au récit des Grecs, une fascination qui se réinvente à travers le temps, et visiblement elle n'est pas près de faiblir, comme en témoigne l'extraordinaire fréquentation des expositions sur les pharaons, les voyages dans la vallée du Nil, ou l'engouement du public pour les documentaires sur le sujet. Et mon livre s'attache donc à répondre aux questions les plus fréquentes entre les vérités et les légendes, pardon. Et puis aussi, je voulais rectifier certaines idées reçues et aussi rendre hommage au génie des Égyptiens en débusquant quelques sujets qui étaient moins connus sur cette civilisation.
Alors, vous répondez à une question que beaucoup se posent, Florence Quentin. Comment ont été construites les pyramides qui nous impressionnent tant par leur perfection? Vous évoquez notamment l'utilisation de rampes pour monter les blocs de pierre.
Alors déjà, précisons que ces monuments ont été construits entre 2650 et 1500 avant notre ère, donc c'est assez un temps assez long. Et puis, on sait aujourd'hui qu'on transportait les blocs de pierre par voie terrestre, des carrières au chantier avec un allié de taille qui était le Nil. Et puis ensuite, on déterminait le nord pour orienter avec la plus grande précision possible les quatre faces de la pyramide par rapport aux points cardinaux. On dessinait le contour de la pyramide, et puis il y avait ensuite des équipes, des chantiers de 20 000 à 30 000 hommes, plus ou moins spécialisés, et qui montaient justement ces blocs grâce au limon pour les faire glisser sur des traîneaux de bois et donc sur des pentes. Et effectivement, on a fait une découverte fondamentale ces dernières années donc pour la compréhension de la construction de ces pyramides titanesques. C'est une équipe de l'IFA, c'est-à-dire l'Institut français d'archéologie orientale, l'École française d'Iker, qui, sous la direction de Yanis Gourdon, dans le site de Hatnoub, c'est une carrière d'albâtre qui est exploitée dès le 3e millénaire, à peu près à 330 km du Caire, et on a découvert un système de halage qui facilitait le déplacement de très gros blocs de pierre hors de cette carrière. Et on pensait jusque-là que les Égyptiens ne maîtrisaient pas les pentes très inclinées, et on s'est rendu compte qu'en réalité, on pensait à des pentes qui ne dépassaient pas 7%, et on sait aujourd'hui, grâce à cette découverte de Hatnoub, qu'ils pouvaient tirer des blocs beaucoup plus lourds sur des pentes beaucoup plus raides, entre 18,5% et 22%, ce qui peut nous expliquer en partie comment ces blocs ont pu être allés tirés sur des traîneaux qui étaient donc humidifiés par du limon sur ces pentes soit frontales, soit latérales pour construire ces pyramides.
Et si on est fasciné par la perfection des pyramides que tout le monde connaît, dans ce livre, vous rappelez que certaines pyramides ont été ratées.
Oui, parce qu'on croit toujours que les pyramides de Gizeh, Khéops, Khéphren et Mykérinos, Khéops, la dernière des sept merveilles du monde antique qui est encore visible aujourd'hui, a jailli parfaitement, on va dire, de la technicité des Égyptiens. Maintenant, avant que cette pyramide sorte des sables de manière, on va dire, quasi parfaite, il y a eu une évolution dans cette architecture monumentale, et il faut le redire, on a eu d'autres essais, parfois infructueux, notamment les pyramides qui ont été édifiées sous le règne du roi Snéfrou vers 2670 avant notre ère. Il a tenté effectivement de bâtir cette forme purement géométrique et lui seul a fait édifier trois pyramides, l'une à Meidoum, l'une dite rhomboïdale, c'est-à-dire en forme de parallépipède, et à Dachour Sud, une tentative avortée de face lisse, et enfin la pyramide nord de Dachour, pyramide rouge, qui est cette fois à face lisse. Donc il a fallu plusieurs essais infructueux, des erreurs, pour arriver enfin à cette construction parfaite qui est devenue l'une des figures iconiques de l'Égypte ancienne.
Et l'égyptologue Florence Quentin, elle publie « L'Égypte ancienne, vérités et légendes » aux éditions Perrin. Elle était l'invitée de la bibliothèque de Radio Orient ce week-end. Émission disponible sur radioorient.com. L'invitée de Pluriel à 19h et 23h est Faïza Bazini, conseillère municipale, déléguée du parti Horizon à Neuilly, ancienne candidate aux élections législatives. Je vous retrouve à 15h pour le flash, 17h30 pour le journal. Excellente journée à tous.